C'est l'heure du LEM. LEM comme l'émission quotidienne de Transistor qui retrouve les Gilets jaunes 7 ans après grâce aux sciences sociales.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait comprendre le Finistère en profondeur. Le Finistère du présent, celui du passé, un passé récent cependant, il s'agit de quelques années seulement. Aujourd'hui, notre invitée est une chercheuse en sociologie. Elle s'est intéressée à un mouvement inédit, typiquement français, qui paraît déjà loin. Il était caractérisé par une couleur, le jaune fluo, des lieux, les ronds-points, et des gens, des tas de gens qu'on pourrait dire ordinaires, invisibles, normaux. On a cru que le mouvement bougeait encore le 10 septembre dernier, mais apparemment il est resté dans les limbes de l'histoire contemporaine. 7 ans déjà donc que les Gilets jaunes surgissaient. Depuis, on a décortiqué ce mouvement. Ce sont en tout cas des chercheuses, des chercheurs qui publient « Devenir des Gilets jaunes » aux éditions du Croquant. Ils sont plusieurs, surtout des sociologues, des politistes aussi, un géographe. Notre invitée est maîtresse de conférence en sociologie à l'UBO au sein de l'UMR Amur. Elle a enquêté sur les Gilets jaunes du Finistère. Bonjour Christelle Dondaine.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un petit portrait de l'équipe justement qui a travaillé sur cet ouvrage collectif ?
Oui, alors avant de parler de l'équipe, je vais parler de comment l'équipe s'est formée.
Oui.
En fait, quand le mouvement des Gilets jaunes éclate en novembre 2018, personne s'y attend, même si après on a découvert qu'il avait démarré avant sur les réseaux sociaux. Et donc très très vite, il y a des politistes, des sociologues qui se disent « mais il faut faire quelque chose ». Or, la recherche, maintenant, elle fonctionne sur des appels d'offres. Mais là, on sort des clous.
Avant même d'avoir l'argent, en fait, vous décidez de travailler. Quoi.
Voilà.
En gros, c'est ça.
C'est ça. Et on travaille hors des clous. C'est le samedi, en fait. C'est le dimanche, c'est des AG, c'est des soirs. Donc, voilà. À Bordeaux, il y a 3 jeunes chercheuses qui élaborent un questionnaire pour qu'on puisse se coordonner partout en France, parce que c'est aussi la spécificité du mouvement d'être très décentralisé. Et donc, voilà, tous les volontaires à Marseille, Paris, Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Toulouse.
Donc des gens qui se connaissaient quand même, des chercheurs?
Non,
même pas.
Ah ouais. En fait, ça passe, certains se connaissent. Et pour certains, ça passe par les listes de diffusion. Et donc, voilà, dès le tout début, ils arrivent à réunir un collectif, un mouvement complètement informel, du coup presque gilet jaune, mais pour s'adapter au mouvement, qui distribue des questionnaires. Et moi, là-bas, je suis sociologue du travail, des questions d'économie. Ça m'interpelle, je suis très très curieuse, mais je ne m'autorise pas à y aller dans la mesure où ce n'est pas mon sujet de recherche. Et c'est Alix Levin qui m'appelle et qui me dit, mais en fait, il y a des zones qui ne sont pas couvertes, il n'y a personne en Bretagne qui couvre le mouvement dans ce collectif qui s'est monté de manière très informelle. Est-ce que tu serais d'accord pour aller avec moi?
Donc on y va. Alix, voilà, elle est anthropologue et elle habite dans le coin, justement. Donc, mais voilà, elle ne voulait pas y aller toute seule, en fait. Quoi.
Enfin,
ça aurait été difficile.
C'était compliqué. Enfin, ouais. C'était mieux d'être... parce que c'est... C'est grand, quoi. Enfin,
mais
on
oui,
y va toute seule une première fois à Brest, et ça se passe très bien. Les Gilets jaunes qui sont là répondent très volontiers à notre questionnaire. Alors, toutes les deux, on n'est pas très questionnaire, mais au final,
bah,
à chaque fois qu'on remplit une case, on a beaucoup de commentaires à côté. Moi, mes questionnaires, ils sont tous gribouillés devant, derrière, sur les côtés, dans les marges. Mais ce n'est pas grave.
Vous n'aviez pas de magnéto quand même pour enregistrer?
Au début, non. Non, parce qu'on ne sait pas trop...
comment ils réagiraient.
Et puis, du coup, Alix décide de couvrir plutôt le Finistère Sud, Quimper, Douarnenez. Donc, moi, je reste à Brest principalement. Et voilà, donc on va faire tout, couvrir tout le mouvement, mais plus tardivement, parce que nous, on est rentrés en janvier, en fait.
Oui, bon, c'est déjà pas si mal.
Et bon, en parallèle, on fait de l'ethnographie improvisée en allant dans des débats, dans des AG. Et en fait, Toute l'équipe, là, il y a plus de, à l'époque, 4000 questionnaires. Après, la base a été nettoyée. On n'en a plus que 3000, mais c'est déjà énorme.
Bah oui, c'est ça, oui.
Et donc, c'est là que, emmenée par Magali de la Souda, il y a une réponse. Il y a plusieurs réponses à un appel d'offres. Et donc, il y a l'ANR qui se monte avec Magali, qui est à Bordeaux, et où Alix Levin et moi-même, Damur, on va participer, mais sur un volet plus écologie, ou travail et écologie. Et il y a le projet emmené par Emmanuel Rungoat, qui a coordonné aussi l'ouvrage, là, qui va réunir plusieurs équipes de maisons des sciences humaines. Il y a la maison des sciences humaines de Montpellier, qui doit être la maison des sciences humaines sud. Voilà, il y a celle d'Aquitaine, celle de Bretagne, celle de Caen. Voilà. Et donc,
un bon panel, quoi, finalement.
Oui.
Plutôt sociologue, quand même. Sociologie politique.
Sciences politiques, c'est une discipline à part entière, oui, au CNU, oui, c'est pour vrai. Nous. Mmh. Et donc, c'est sciences politiques, parce que Emmanuel, Magali sont... Enfin, Magali, elle est historienne et sciences politistes. Emmanuel, c'est plus Sciences Po. Il y a un géographe de Caen, Étienne Walker. Il y a François Buton, qui est sociologue. Alix Levin, qui est anthropologue. Moi-même, sociologue. Et en fait, il y a la plupart des gens du projet MSH sont aussi dans l'ANR. Et Magali, beaucoup de gens de l'ANR sont aussi dans ce projet MSH. Donc voilà, c'est ceux qui ont contribué à la fois à nourrir cette base de données complétée par beaucoup d'entretiens et qui ont envie de le prolonger dans un travail de plus long terme. Et on va continuer en fait à faire des entretiens avec des Gilets jaunes. Après, une fois que le mouvement est terminé, pour comprendre ce qu'ils deviennent, d'où
le titre qui est formidable d'ailleurs. Ce titre, c'est devenir des gilets jaunes. C'est ambigu, évidemment. C'est à la fois comment ces gens sont devenus des gilets jaunes et quel est le devenir de ce mouvement. C'est
oui.
ça. Oui. C'était volontaire, je suppose. Quoi.
Oui, complètement.
Ouais, c'est très réussi. Juste une toute petite parenthèse territoriale, enfin géographique. J'ai l'impression qu'il y a moins de l'Est de la France qui est représenté. Vous avez pu quand même avoir des éléments sur les gilets jaunes de l'Est de la France
Alors, oui, mais...
Mais vous ne pouviez pas être partout, hein. c'est pas un reproche du tout, c'était juste une question. Ouais, parce que vous avez déjà fait un énorme travail. Alors vous, donc, Christelle Nondaine, vous disiez, votre spécialité, c'est le travail, mais finalement, ce n'était pas du tout déconnecté des Gilets jaunes. Enfin, c'était un excellent thème, puisque c'est, quelque part, c'est le travail pratiquement qui les a mobilisés, on peut dire ça, non
Ben moi, j'ai eu cette grille de lecture-là. Au départ, je m'étais dit, oui, je vais... respecter ce qu'on a signé en gros dans l'ANR, c'est-à-dire aller sur les questions d'écologie et d'environnement, mais j'ai pas pu m'empêcher de d'aller regarder dans le trajectoire ce qui relevait de l'expérience du travail, parce que ça me semblait primordial. En fait, ça c'était tellement ça sautait aux yeux, c'était dans tous les conversations, les échanges qu'on avait.
La c'est ça. Oui, voilà. Tout à fait. Puis eux-mêmes le disaient. Hein. Mmh. Et donc c'est travail ou pas travail, parce que en fait on va voir après. Hein, on va détailler un peu, mais bon, évidemment, ceux qui sont mobilisés sur les ronds-points, et ben, certains étaient au chômage, comme on dit. Mmh. Donc voilà. Mais enfin, c'était quand même une donnée. Donc là, vous avez participé, Christelle Nondaine, à deux chapitres. Donc celui sur le travail, justement. Alors, le titre du chapitre, qu'est-ce que c'était déjà
Pardon, allez-y. Le travail commun dénominateur ou commun diviseur des Gilets jaunes.
Voilà. Et vous l'avez donc réalisé avec Alix Levin, qui est anthropologue, je l'ai dit, et Étienne Walker, qui est géographe. Et vous avez procédé par une méthode qui s'appelle approche par les biographies, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, c'est tout le projet de l'ouvrage qui s'appuie sur cette approche des biographies. En fait, tout le projet de recherche qui a été mené avec Emmanuel, donc on s'est réunis plusieurs fois dans les maisons des sciences de l'homme qui sont citées, donc parfois à Rennes, parfois à Montpellier. On s'est raconté nos gilets jaunes. Parce qu'il y a des... Voilà, on faisait la double hypothèse qu'il y avait des configurations locales, c'est-à-dire que ce qui s'était passé à Caen, c'était pas tout à fait la même chose que ce qui s'était passé à Montpellier ou qui se passait dans le Finistère. Parce que les villes sont pas construites différemment, enfin, parce que, voilà, il y a des bassins d'emploi aussi qui offrent des opportunités différentes, parce que les couleurs politiques locales sont aussi très différentes. Enfin, voilà, donc il y a des configurations locales. Et en même temps, il y a des biographies, et donc on s'est raconté nos protagonistes du mouvement pour voir ce qu'ils avaient en commun et ce qui aussi les singularisait par endroit.
Ça n'a pas dû être facile le choix de choisir les plus emblématiques, en fait, c'est ça?
Oui, mais c'est sans chercher la représentativité au sens statistique du terme, parce que ça n'a pas de sens précisément si on cherche les singularités, et en même temps faire émerger quand même des choses communes qu'on a fait essayer de rendre visibles à travers ces différents chapitres qui sont autant d'aspects de la vie des Gilets jaunes, parce que la vie politique n'est pas une vie de militants, c'est beaucoup de primo-militants.
Oui.
Et donc, ils viennent tout entiers, en fait, dans le mouvement.
C'est ça. On a déjà fait, il y a plus de deux ans même, avec Alix Levin, justement, une première émission sur qui sont-ils, qui sont-elles, ces Gilets jaunes. Donc voilà, on avait vu notamment qu'il y avait pas mal de... une majorité de femmes, des primo-militants, comme vous disiez, donc on va revenir peut-être là-dessus, mais puisque donc vous aviez choisi pour le chapitre sur le travail, cinq personnes, est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnes? Pourquoi? Enfin, qui sont-elles et comment vous les avez choisies?
Je les ai choisies parce que... comment dire? On a, chez les Gilets jaunes, des gens qui sont assez stabilisés, qui ont un vrai parcours de militants, très engagés, avec des convictions politiques ancrées à gauche, mais aussi un engagement dans le syndicalisme, et avec des perspectives stables, et donc qui sont quand même engagés pour les autres, et qui, en dépit des réticences des organisations officielles syndicales au départ du mouvement, eux, qui sont allés immédiatement, sans aucune réticence personnelle, parce qu'ils reconnaissaient dans les Gilets jaunes leurs voisins, leurs amis, leurs familles, des gens des précaires, qui n'avaient pas forcément leur place dans un syndicat parce qu'ils n'avaient pas un boulot stable. Mais voilà, donc... mon premier, c'est celui-là.
Et le syndicaliste, on va dire.
Le syndicaliste. Que j'ai... lui, je ne l'ai pas rencontré pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai rencontré plus tard, quand les recherches ont démarré. C'était une manifestation contre la réforme des retraites. Et bien qu'il soit CGT... Non, il n'était pas... Il était plus CGT à l'époque.
Et voilà, c'est intéressant, ça aussi.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il portait? Un gilet jaune, alors que le mouvement était fini.
C'est ça.
Et donc, moi, ce gilet jaune m'a interpellée. Il était avec ses camarades de la CGT.
Quand même.
alors qu'il n'était plus CGT, c'est ce que j'ai appris pendant l'entretien. Et je me suis dit, mais qui c'est ce gilet...
ce gilet jaune.
Ce gilet jaune qui est copain avec la CGT, voilà. Donc, et donc, on a fait un entretien, et là, je découvre son parcours qui est fait de bifurcation même au niveau du syndicat, parce qu'il a finalement...
Il a essayé la CFDT, c'est ça?
Non, non Force non. Ouvrière.
FO, ouais.
Ouais. Mm-hmm. Mais ça, là aussi, c'est un contexte, c'est-à-dire qu'il est dans un grand groupe privé dans les travaux publics. Les jeux de la sous-traitance, de délégation des services publics font qu'il est racheté par et il passe dans une entreprise qui est semi-publique, mais que
il y a plus de CGT.
Sa partie d'activité change, c'est-à-dire c'est pas tout le groupe qui bascule, c'est juste son activité à lui. Et quand il arrive du coup dans chez ce nouvel employeur, il y a une CGT qui est très timorée, qui ils ont des bonnes conditions de travail, ils ont des bonnes conditions d'emploi, mais du coup, ils ont de très bons rapports avec leur employeur.
Ils ne ruent pas trop dans les brancards.
Voilà. Ah ouais. Et lui, ça le heurte profondément parce que pour lui, le syndicalisme, c'est la lutte. C'est la lutte des classes en permanence. Il ne faut jamais rien lâcher. Donc, il ne se retrouve pas du tout dans cette espèce de paix sociale, cette culture du compromis. Donc, il monte son syndicat avec FO, qui n'était pas trop sa tasse de thé au départ, dans son histoire, parce que lui, c'est quelqu'un qui a été biberonné, vraiment, la fête de l'UMA, le PC, enfin, la lutte des classes, il vit dedans. Donc, c'est quand même un choix par défaut FO, mais pour ne pas renoncer justement à la possibilité de construire ce rapport antagoniste avec l'employeur pour jamais rien lâcher, jamais se laisser faire.
Mais est-ce que cette personne nous apprend justement du rapport des Gilets jaunes avec le syndicalisme aussi ? C'est intéressant parce que voilà, c'est aussi que pourquoi le syndicalisme est-il si faible en France ? Mais peut-être que quelque part, les Gilets jaunes ont apporté un peu une réponse à cette question. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu de ça quand même.
Ben oui, déjà, le syndicalisme, il souffre d'une faiblesse de son implantation. Il y a de nombreux Gilets jaunes travaillent dans des endroits où le syndicat n'a pas la possibilité d'être là ou n'a pas la possibilité de défendre réellement les gens. Parce que mon deuxième personnage, c'est une femme qui travaille dans le médico-social, et le médico-social, c'est un des secteurs les plus précaires qui soit pour les femmes.
Et où très les effets représentés dans les Gilets jaunes.
Ouais. Et où les effets du genre dans le travail se font vraiment beaucoup, beaucoup sentir, parce que c'est des conditions de travail très éprouvantes, où les femmes donnent beaucoup de leur personne, s'engagent corps et âme dans le travail, pour des rémunérations vraiment très, très faibles et honteuses dans certains secteurs, et à des temps partiels qui sont souvent subis. Et donc là, même quand les syndicats sont implantés,
ils ne sont pas très combatifs, on va dire. Quoi.
Mais c'est sans jugement de valeur, c'est qu'il n'y a pas assez ils n'ont pas les capacités de défendre réellement, en tout cas pas tous les cas de figure.
C'est ça.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'action d'un syndicat. Le syndicat, il est dans l'action collective, c'est-à-dire qu'il va signer, il va négocier des conventions. Mais le syndicat, il a aussi un rôle de défendre des cas individuels. Et c'est là où les bataillons manquent.
C'est ça. Et où
faut du temps, des personnes qui s'intéressent aux cas, qui se renseignent juridiquement, qui sont formées. Et donc, là-dessus, les syndicats, ils sont très faibles au sens, ils manquent vraiment de ressources pour défendre les cas individuels. Or, les Gilets jaunes, c'est beaucoup de personnes qui se sont fait avoir dans leur parcours, qui ont souffert, et parfois, comme le cas le portrait que je dresse, c'est une personne qui estime avoir été harcelée parce que elle n'a pas pu prendre de congé pendant très très longtemps, parce qu'elle a toujours remplacé ses collègues et qu'elle est mise sur la sellette, et ce à deux reprises, et que les syndicats qu'elle est allée voir l'ont pas défendue, voire l'ont lâchée ou accablée.
Et ça sera le cas aussi d'ailleurs de l'autre personne que vous avez choisie dans le chapitre 4 consacré aux femmes. Et c'est pareil, quoi. Oui. Elle n'a pas été défendue par les syndicats.
Non.
Elle a été victime de harcèlement aussi. Enfin, voilà.
Elle ne s'est même pas tournée vers les syndicats.
Oui.
Et donc, si je reviens à l'approche biographique, je suis désolée,
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il nous restera pas assez de temps, peut-être, pour parler de tout le monde. Donc,
Échanges. Ouais. On fait émerger ces points communs-là. C'est-à-dire que, avec nos Gilets jaunes, à nous, on voit émerger ça. Mais quand on parle des quatre coins de la France entre nous, on voit là qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se rejoignent dans leur parcours biographique.
Oui, et puis dans les cinq personnes, donc on en a parlé de deux sur le rapport au travail, il y a quand même aussi celui qui a beaucoup surgi dans les médias, c'est le petit patron, ça. Alors lui, il est intéressant aussi, parce que c'est un petit patron social, mais en même temps, politiquement pas tellement marqué.
Oui, et puis il est social, mais en même temps, Enfin, il dit qu'il se rémunère comme ses salariés.
Oui, c'est ça. Voilà.
Il a les mêmes salaires, ouais. Mais il oublie de parler des bénéfices et des autres formes de rémunération qu'ont un patron. Et il dit aussi qu'il est à l'abri et qu'il n'est pas comme eux. C'est-à-dire,
oui.
Il y a vraiment une.
Il fait la part des choses. Ouais. Tout à fait.
Il est très ambivalent, avec un sentiment d'appartenance qui est vraiment fondamental parce qu'il a grandi dans les mêmes quartiers, il vient des mêmes endroits, donc il se reconnaît vraiment complètement, pleinement en elle et eux.
Ouais.
Et en même temps, il met régulièrement en avant le fait que lui s'en est sorti. Et lui, il n'est pas tout à fait pareil. Et il a été sur tous les fronts, mais il ne porte pas de gilet jaune. Enfin, il refuse d'être assimilé à un mouvement. Et c'est fondamentalement la figure de l'entrepreneur.
Ouais.
Et oui.
Alors, étonnant. Il y a aussi alors, la personne racisée, on va dire, pour faire court, c'est ça. C'est important, enfin, ça existait aussi, même si là, pour le coup, on n'a pas forcément parlé de ces gilets jaunes-là, je pense. Pas beaucoup, en tout cas.
Certains en ont plus parlé que d'autres, parce que les ont plus rencontrés. Il y a Sharif El Alaoui qui a fait une thèse, qui était doctorant à l'époque, et dont, justement, la thèse a été financée par l'ANR Gilets jaunes. Lui, il en a davantage parlé. De cette figure de la personne racisée sur les ronds-points.
Qui a beaucoup de diplômes, mais enfin qui n'a jamais réussi à trouver le boulot qui lui correspondait, qui lui plaisait. Quoi. C'était vraiment ça. Qui, donc, on peut supposer, a été victime d'une discrimination.
En tout cas, il le vit comme ça.
Voilà, oui. Et donc, il y en a eu quand même des gilets jaunes comme ça.
Mais en fait, il y a de nombreux endroits où les... Alors moi, ce terme de personne racisée, il me gêne un peu.
Oui, je suis d'accord.
C'est pas mon terme à moi, et moi, j'en ai pas rencontré. Donc Mais en fait, beaucoup de jeunes des banlieues, de personnes de banlieue, sont restées très à distance du mouvement. Et il y a des endroits où on a observé des soutiens, des gilets jaunes, quand il y a eu des manifestations en banlieue. Donc il y a des rapports très très contrastés, en fait. Mais là, je préfère ne pas en parler, parce que moi, ce n'était pas directement mes terrains.
Mais ce personnage est intéressant aussi, et puis de même que la personne qui, elle, vient soutenir, alors qu'elle ne se sent pas touchée vraiment par la vie. Enfin, justement, elle n'en a pas trop bavé, elle, elle est là en solidarité. Il y avait aussi cette figure-là. Quoi.
Oui. Et elle, du coup, elle est par contre en porte-à-faux avec ses appartenances politiques, parce que tout le sens de ses engagements militants va vers la solidarité avec ces gilets jaunes dont elle saisit immédiatement la détresse, la souffrance, la précarité. Et donc elle est un peu réticente à y aller, mais pour la simple raison qu'elle, elle est à l'abri.
Oui, elle se sent pas légitime, quelque part.
Elle est stable, voilà. Mais elle est très surprise par le mépris d'une partie de ses camarades militants qui se mettent à distance du mouvement, et elle n'en comprend pas les raisons, en fait.
Et puis alors, on va garder un petit peu d'espace pour Jacqueline, qui est donc dans le chapitre 4 consacré aux femmes, la figure que vous avez choisie avec Magali Della Souda pour représenter un parcours de femme qui n'était pas militante du tout, qui devient militante et qui a vraiment été alors là, malmenée par la vie, on peut dire ça comme ça.
Oui, ben là, le parcours de Jacqueline, il est marqué par des épreuves très douloureuses, des décès, jusqu'au deuil d'un enfant. Donc, c'est vraiment un parcours terrible. C'est une femme qui a subi des violences très, très jeunes, avec des enfants en bas âge. Elle a dû fuir le domicile conjugal.
Elle s'est fait malmener au travail aussi.
Elle s'est fait malmener au travail. Et quand elle raconte son parcours, on a l'impression qu'à aucun moment, elle a rencontré le soutien d'organisation. On se dit, mais une femme en détresse aurait dû être trouvée sur sa route, un planning familial, des soutiens. Et là, on a l'impression qu'elle traverse ça toute seule.
Et d'ailleurs, elle n'est pas féministe parce que les personnes qui l'ont harcelée au travail, c'était des femmes aussi.
Oui.
C'est un terme qu'elle refuse de manière claire, quoi. Alors qu'en fait, elle est féministe dans ses actes, si on veut, quoi. Enfin, ou humaniste, elle est humaniste, on pourrait dire.
Oui, bah après, il n'y a pas un courant féministe. Il ouais. y a des mouvements qui se revendiquent comme féministes, mais en fait, ces mouvements féministes, ils ont différentes couleurs politiques qui peuvent aller jusqu'à des oppositions. Magali Della Souda, elle a travaillé sur les femmes de droite, dont certaines se revendiquent féministes et qui vont à l'opposé d'autres féministes qui se situeraient à gauche. Donc ça, c'est une autre question. Mais précisément, Jacqueline n'est pas féministe d'abord et avant tout, à mon sens, enfin, et à celui de Magali, parce que le féministe est assimilé pour elle, sans même y avoir beaucoup réfléchi, à des figures intellectuelles, en fait. Et elle ne se sent pas appartenir à ça. Elle, fondamentalement, elle appartient au monde populaire, et donc elle se bat pour les femmes, pour des causes de femmes qui doivent nourrir leurs enfants, qui doivent survivre, mais pas pour pas en tant que féministe. C'est...
Et elle trouve dans les Gilets jaunes vraiment une famille, on peut dire ça comme ça. Mmh. Enfin, c'est intéressant parce que je cite juste une petite phrase, mais par rapport à son rapport à la pauvreté, s'opère un retournement du stigmate de la pauvreté, de honte subie et gardée pour soi. La pauvreté devient une honte pour le gouvernement. Les privations auxquelles le manque de ressources conduit créent de nouvelles complicités. Ça, c'est aussi un phénomène vraiment étonnant.
Mais c'est vraiment le nœud du mouvement. Ouais, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai travaillé sur les parcours d'autres Gilets jaunes que les miens, c'est de retrouver dans leurs entretiens des phrases très très proches sur le retournement de la honte. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le parcours, enfin dans plusieurs parcours, c'est des gens qui n'ont pas réussi, qui se sentent en échec dans la vie, qui n'arrivent pas à trouver un boulot stable ou qui se sont fait harceler, ont dû quitter par la petite porte. Donc ils sont plutôt honteux, ils mettent pas en avant leur parcours et en fait ils se rencontrent, ils parlent entre eux pendant des mois en fait. Donc il y a du temps qui est laissé libre pour développer ce qui nous est arrivé dans la vie, et ils se rendent compte qu'ils ont subi ces mêmes épreuves, et que du coup ça devient des épreuves collectives, et c'est là que s'opère le retournement du stigmate, mais en fait on nous a fait ça, ils prennent conscience vraiment de ce que ce sont des conditions qui sont faites au peuple, et pas c'est pas de leur faute, oui, en fait. C'est vraiment qu'ils ont dû traverser une épreuve qui s'impose à tout le monde. Et
c'est la honte qui change politique. De camp, comme oui. on dit. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment... voilà. Bon, il y aurait énormément de choses à dire encore. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, je vais inviter les gens à lire l'ouvrage qui s'appelle « Devenir des Gilets jaunes » sous la direction d'Emmanuel Rengouat, Sylvain Bordiek, François Buton, vous, Christelle Dondaine et Étienne Walker. C'est donc paru aux éditions du Crocamp. Puis peut-être que vous reviendrez continuer à nous en parler. Okay. Merci.
Merci.
Au revoir. Et vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur le site internet de Transistor. À bientôt.